VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 9 octobre 2023. Eric Manila Kiza avec vous à la une ce soir. Au troisième jour de la guerre entre Israël et le Hamas, le bilan des victimes s'est alourdi.
C'est une escalade non pas dans la guerre mais dans le mépris du droit international des deux parties.
Les Émirats et Bahreïn dénoncent la prise d'otages de civils israéliens et le chef de l'ONU, bouleversé par l'annonce du siège de Gaza par Israël. Le retrait des troupes françaises du Niger a débuté ce week-end, tandis que l'Algérie décide de surseoir à sa médiation au Niger. Au Mali, la junte compte contrôler le camp de l'ONU à Kidal en novembre. Au Libéria, les électeurs sont appelés aux urnes demain mardi pour des élections générales. Les Quinois partagent leurs réactions sur les candidatures à la présidentielle du 20 décembre en RDC.
Il y a même des candidats pour rire. J'accepte parce que c'est léger démocratique.
Au Cameroun, au moins 30 morts dans un éboulement provoqué par des pluies torrentielles dimanche soir à Yaoundé. Le président chinois qualifie les relations entre Pékin et Washington de décisives pour l'avenir de l'humanité lors d'une visite de sénateurs américains dans la capitale chinoise. Encore une fois, bienvenue. Israël ordonne un siège total de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas au troisième jour de l'offensive surprise et massive lancée par le mouvement islamiste palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, reconnaissant les inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité, s'est dit profondément bouleversé par l'annonce des autorités israéliennes du siège complet de la bande de Gaza. La guerre a fait près de 1300 morts au total, selon les bilans officiels de part et d'autre. Alexandrine Rolognan.
Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, selon la déclaration du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déployés autour de la bande de Gaza, mince territoire côtier, peuplé de 2,3 millions de Palestiniens et contrôlé par le Hamas depuis 2007. L'armée s'efforce aussi de sauver les Israéliens pris en otage par le Hamas, plus d'une centaine, selon le gouvernement israélien. Les sirènes d'alerte à la roquette ont de nouveau retenti à Jérusalem et dans le centre d'Israël, alors que les tirs de roquettes en provenance de Gaza se poursuivaient, surtout sur le sud d'Israël. L'attaque du Hamas a été condamnée par de nombreux pays occidentaux. Washington indique qu'au moins 9 Américains ont été tués dans l'attaque.
Les réactions dans le monde se poursuivent au troisième jour de cette guerre entre Israël et le Hamas. Les ministres arabes des Affaires étrangères vont se réunir mercredi au siège de la Ligue arabe au Caire en Égypte. Lors de cette réunion extraordinaire présidée par le Maroc, les chefs de diplomatie discuteront des moyens d'action politique au niveau arabe et international pour faire cesser l'agression israélienne sur la bande de Gaza. Yacouba Ouedraogo.
Le patron de la Ligue arabe, Ahmed Abdul Gaet, a assuré que son organisation rejette la violence des deux côtés. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu avec Mohamed bin Zayed al-Nahyan des Émirats arabes unis et a convenu d'intensifier les discussions et les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'escalade militaire. Depuis samedi, M. Sissi s'est aussi entretenu avec le président Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel et le chancelier allemand Olaf Scholz. Son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, a convoqué une réunion d'urgence demain des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les États-Unis ont commencé à envoyer de l'aide militaire à Israël et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée. L'Iran s'est placé en première ligne du soutien à l'offensive du Hamas, tout en rejetant les accusations sur sa responsabilité directe dans le déclenchement de la guerre. De son côté, Moscou juge élevé le risque de l'entrée de forces tierces dans le conflit.
L'Union européenne va revoir son aide au développement en faveur des Palestiniens, a indiqué ce lundi soir la Commission européenne, sans faire mention d'une suspension annoncée par un de ses commissaires aux grandes dames de certains des 27 États membres. Les Émirats arabes unis et Bahreïn, deux pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, ont dénoncé la prise en otage de civils israéliens par le Hamas palestinien. Abu Dhabi a appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour éviter une confrontation régionale plus large, en dénonçant les tentatives violentes visant à faire dérailler les efforts régionaux en cours en faveur du dialogue. Le président turc a mis en garde Israël contre une attaque indiscriminée de civils à Gaza dans sa guerre contre le Hamas. Pour une analyse sur les implications de ce conflit meurtrier, nous avons joint à Paris Ahmed Benchmessi, directeur de la communication pour le Moyen-Orient chez Human Rights Watch.
L'implication première, c'est que c'est une escalade, non pas dans la guerre, mais dans le mépris du droit international. Des deux parties, l'exécution et l'enlèvement de civils israéliens par le Hamas, ainsi que les tirs de roquettes vers des zones d'habitation sans but précis, c'est un crime de guerre. Parce que les lois de la guerre sont claires et nettes. Il faut éviter de cibler des civils, toujours, en toutes circonstances. De l'autre côté, l'armée israélienne qui bombarde depuis deux jours des immeubles d'habitation dans des zones densément peuplées de Gaza, et qui annonce, c'est tout récent, qu'elle va couper l'électricité et même faire un blocus total, eau, électricité, nourriture et médicaments à tout Gaza avec 2 millions de personnes à l'intérieur, ça s'appelle une punition collective. Et c'est un crime de guerre effroyable également. Donc l'implication principale du conflit, c'est celle-là. Les meurtres délibérés de civils, les prises d'otages et les punitions collectives sont tous des crimes de guerre qui n'ont aucune justification. Quel que soit le contexte, quel que soit le déséquilibre des forces entre les belligérants.
Et quelles sont les perspectives de paix à long terme dans la région et quels sont les principaux obstacles à surmonter?
L'obstacle numéro un surmonté, c'est l'impunité. Ça fait trop longtemps qu'Israël viole le droit international sans conséquence, ni que personne ne rende de compte. Ils ont fini par trouver ça normal, comme si c'était normal d'être au-dessus des lois internationales. Ce qui rend cela possible, bien sûr, c'est le soutien de la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, dont le soutien à Israël est constant et invariable, quels que soient les crimes de guerre qu'ils commettent. Pourquoi voulez-vous qu'ils changent alors? Tant que la situation restera ce qu'elle est, tant que le droit international ne sera pas respecté et tant que ceux qui le violeront ne rendront pas de compte, des deux côtés d'ailleurs, la situation ne pourra que continuer à pourrir et à enregistrer des escalades meurtrières comme ça, et la paix restera un objectif théorique de plus en plus lointain.
Ahmed Benchemsi, directeur de la communication pour le Moyen-Orient chez Human Rights Watch. Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a ordonné un soutien supplémentaire à Israël à la suite de cette attaque surprise de samedi du Hamas contre l'État juif. Veronica Balderas Iglesias de VOA revient sur les efforts visant à apaiser les tensions. Le récit est de Mohamedou Onfa.
Après que son gouvernement a officiellement déclaré la guerre, Israël continuait dimanche à pilonner diverses cibles à Gaza. L'ambassade des États-Unis en Israël a averti les citoyens américains que la situation reste imprévisible, mais Washington poursuit ses efforts pour désamorcer la crise, a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
J'étais au téléphone avec le président israélien, le ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement tout entier s'est engagé dans toute la région et bien au-delà, à la fois pour renforcer le soutien à Israël et pour s'assurer que chaque pays utilise tous les moyens dont il dispose, quel que soit son niveau d'influence, pour reculer le Hamas et aussi pour s'assurer que le conflit ne se propage pas dans d'autres régions.
Déjà plus de 20 000 personnes ont trouvé refuge dans les écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Pendant ce temps, des proches de civils israéliens qui seraient retenus en otage par le Hamas se sont rendus dans les commissariats de police pour fournir des échantillons d'ADN susceptibles de faciliter les enquêtes. Washington s'efforce également de vérifier les informations selon lesquelles des Américains figurent parmi les personnes tuées ou retenues en otage par le Hamas. Antony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis.
Tout Américain, où qu'il soit, qui est détenu ou retenu en otage, représente une priorité pour ce gouvernement, pour cette administration.
Les détails sur la manière dont l'attaque surprise contre Israël a été menée tardent encore à venir, mais la candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de ne pas y prêter une attention particulière malgré leurs propres défis politiques.
L'Amérique doit se réveiller. Nous devons mettre cette négativité et cette division derrière nous. Et nous devons nous concentrer sur la sécurité nationale pour nous-mêmes et pour nos amis.
Le représentant républicain Matt Gaetz, qui a récemment réussi à évincer le président de la Chambre, Kevin McCarthy, est apparu dans Meet the Press sur NBC. Il a rassuré sur le fait que le vide politique qui en résulte au Congrès et qui, de l'avis de certains, pourrait retarder les programmes d'aide à Israël, sera comblé dans un avenir proche.
Je pense que nous allons nous réunir très bientôt. Je pense que nous avons deux excellents candidats.
De son côté, la Maison-Blanche a annoncé que le président Joe Biden a ordonné un soutien supplémentaire à Israël et qu'il reste en contact étroit avec le gouvernement israélien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention des clarifications qu'il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne au Niger, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Alger rappelle que les autorités nigériennes avaient informé le gouvernement algérien le 27 septembre par lettre officielle de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté. Le président algérien avait ensuite chargé son chef de la diplomatie de se rendre à Niamey pour y entamer des discussions préparatoires. Mais les échanges entre les deux chancelleries sur le programme et le contenu de cette visite n'ont pas été concluants, a ajouté le communiqué. Le retrait des troupes françaises du Niger a débuté avec plusieurs convois ce week-end entre les bases avancées du nord-ouest où sont déployés 400 militaires et la capitale Niamey. La junte au pouvoir au Mali prévoit de recevoir en novembre le contrôle du camp de l'ONU à Kidal dans le nord, un des grands enjeux de la confrontation ranimée entre l'État central et la rébellion, a indiqué un responsable. La ville de Kidal est le fief de la rébellion à dominante Touareg qui a repris les hostilités contre l'armée nationale en août avec le début du retrait de la mission de l'ONU. Le Libéria organise demain 10 octobre des élections générales pour le scrutin présidentiel. 20 candidats sont en lice, dont le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai. Nani Tetalani.
Plus de 2,4 millions de Libériens sont attendus aux urnes pour ces élections. Pour la présidentielle, 19 candidats espèrent détrôner le président sortant George Weah après un premier mandat entaché par des allégations de corruption et des difficultés persistantes. L'ancienne star du football, George Weah, qui a accédé au pouvoir en 2017, va défier plusieurs candidats de l'opposition, notamment l'homme d'affaires Alexander Cummings et l'ancien vice-président Joseph Boakai, que George Weah avait battu au second tour en 2017. Le vainqueur doit obtenir 50% du total des suffrages exprimés, plus au moins une voix supplémentaire, afin d'éviter un second tour. La campagne électorale a été marquée par des tensions politiques et des accusations de corruption. Des affrontements ont éclaté hier dimanche à Monrovia pendant le défilé de clôture de campagne du président George Weah entre ses partisans et ceux d'un parti d'opposition. Les observateurs internationaux expriment des inquiétudes quant au risque de violence électorale au Libéria.
Deux dirigeants du parti du leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, ont été arrêtés ce lundi à la suite d'un raid des forces de l'ordre. Le séparatiste yoruba nigérien Sunday Igboro a été libéré par le Bénin, où il était détenu depuis 2 ans après avoir fui la police nigériane et a quitté le pays, a annoncé l'un de ses avocats. Le procès à Bruxelles de 2 anciens responsables rwandais jugés pour crimes de guerre et crimes de génocide commis en 1994 a été suspendu lundi au bout de quelques heures en raison de l'absence d'un des 2 accusés qui doit être examiné par un médecin. Le président chinois Xi Jinping a qualifié ce lundi les relations entre Pékin et Washington de décisives pour l'avenir de l'humanité lors d'une visite d'une délégation de sénateurs américains menée par le démocrate Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat américain. C'était dans le cadre du réchauffement diplomatique entre les deux puissances. Dans la matinée, cette délégation avait été reçue par le ministre des Affaires étrangères. Nous espérons que cette visite aidera les États-Unis à mieux comprendre la Chine, à considérer les relations sino l'Union américaine avec plus d'objectivité et à gérer de façon plus rationnelle les différends existants, leur a déclaré le chef de la diplomatie chinoise.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, de retour avec vous Eric Manilakidza, place au dossier du jour. L'attaque surprise lancée par la branche armée du groupe palestinien Hamas contre Israël et ses forces armées marque un nouveau pic de violence et de destruction dans le cadre d'un conflit qui fait rage depuis trois quarts de siècle. Vu d'Afrique, comment ce conflit est-il perçu et quels sont les moyens d'en sortir? Voici quelques réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
On n'est pas dans une guerre traditionnelle, on est dans une guerre asymétrique. Donc d'un côté, l'armée israélienne qui est super, super formée, super équipée, et de l'autre côté, ben, les peuples palestiniens qui n'ont que leur foi. À partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas réglé le problème des territoires et de leur juste répartition, ben, ça va durer toujours. Ça va ressembler à une malédiction biblique, mais ça va durer toujours.
Ce qu'on dit en réalité, c'est qu'il n'y a pas un État de trop dans le Proche-Orient, mais il manque un État. D'ailleurs, ça rejoint mon prédécesseur qui disait qu'il faut deux États. Il faut clairement que l'on reconnaisse les deux États et qu'en réalité, chaque État puisse exercer sa souveraineté.
Avec un recul, je pense que la résolution de ce conflit ne peut pas être faite par médiation politique ou diplomatique, mais doit être faite sur le plan spirituel. Donc, ça ne me surprend pas.
Comment spirituel ?
Spirituel parce que la guerre entre, comme je le disais tantôt, entre la Palestine et l'Israël, c'est une question d'occupation de terre. Or, cette terre, selon les Juifs, leur a été promise par Dieu, alors que c'était en Égypte, en déportation. Mais, en arrivant, ils trouvent un peuple qui est déjà installé. Alors, qui occupe la place de qui? Les uns disent que c'est une terre qui nous est promise par Dieu, donc qui se renvoie vers le divin. À partir de ce moment-là, ce qui est divin va être réglé humainement. Voilà pourquoi j'estime que c'est un conflit qui doit être réglé sur le plan spirituel.
Bah écoutez, je pense que la réaction ou la position des Palestiniens aujourd'hui, elle est légitime. Parce que longtemps, leurs territoires ont été occupés par les Israéliens. Et je crois que c'est une guerre qui date depuis des années. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle va cesser. Donc on peut comprendre, légitimement comprendre la position des Palestiniens aujourd'hui à l'égard des Israéliens. Donc, pour moi, j'ai dit que c'est une bonne chose.
Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec de la politique de l'ONU à travers le monde? L'ONU qui devrait jouer le rôle de gendarme du monde.
Mais effectivement, parce que l'ONU ne fait pas son travail. Tous les secrétaires généraux qui ont succédé à la tête des Nations Unies, au sein des Nations Unies, tous ont échoué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nouveau secrétaire général, on ne sait pas ce qu'il fait. Je crois qu'effectivement, ce que vous dites est vrai, c'est l'échec, c'est le travail inachevé des Nations Unies.
C'était quelques réactions recueillies à Libreville par notre correspondant Obiangze. Au Togo, ce conflit au Proche-Orient entre le Hamas et Israël est aussi commenté. Si les uns condamnent la violence sur les civils, certains appellent à une solution à deux États pour en finir avec cette escalade. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
À Lomé, l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël ne laisse pas indifférent. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, condamne cette violence contre des populations civiles.
Cette attaque est d'une violence extrême contre l'Israël avec son cortège de morts. Je pense bien quand même que c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est criminel et ce que nous condamnons, parce que nous estimons que la violence n'a jamais réglé de problème. Et dommage que ce soit les populations civiles qui sont victimes.
Pour Firmin, responsable d'un centre de géostratégie, les violences de ces derniers jours sont inhérentes à la volonté des Palestiniens de vivre dans un État propre.
Le problème qui se pose fondamentalement, c'est un problème de territoire. Les Palestiniens veulent avoir leur territoire à eux. Ils veulent avoir, quand on parle d'État, on parle du pouvoir central, on parle de la population, mais on parle aussi du territoire. Israël doit laisser les Palestiniens avoir leur territoire. territoire. Donc il faut que les Nations Unies se prononcent sur le sujet. Et aujourd'hui, la France condamne, la Grande-Bretagne condamne, l'Allemagne condamne, mais le problème fondamental n'est toujours pas résolu. Les gens veulent avoir leur territoire, il faut le leur accorder.
Pour que la violence cesse entre Israël et la Palestine, Jerry Tama estime qu'il faut retourner aux frontières tracées par les Nations Unies en 1947.
Ma position par rapport à ce conflit a toujours été claire. Il faut absolument aboutir à deux États, un État palestinien, un État israélien. Et pour ce faire, il faut que les bonnes personnes, sont réellement épris de paix, prennent le pas sur toutes les personnes extrémistes, sur toutes les personnes fondamentalistes qui attisent ce conflit-là. Il faut que ce soit du côté israélien, qu'on mette un terme à la colonisation, qu'on revienne aux frontières de 1947, quand l'ONU a fait la partition de cet État, et que la masse aussi reconnaisse que la solution passe par la création d'un État israélien.
Sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a condamné fermement l'attaque terroriste de Hamas contre des civils israéliens. Nous encourageons Israël et le Hamas à continuer le dialogue pour régler les différends. Nous demandons la libération des otages. La priorité est la paix en Israël, en Palestine et dans la région. Nous sommes du côté de la paix, a dit Robert Doucet. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Moyen-Orient en ébullition après l'attaque surprise du Hamas qui a fait des centaines de morts en Israël. L'État hébreu a riposté en pilonnant Gaza et en imposant un siège complet de ce territoire sous le contrôle du groupe militant palestinien. Les appels à la désescalade et au dialogue ne sont pas pour l'instant suivis d'effets sur le terrain. Comment en est-on arrivé là? Quels risques pour la région et le reste du monde? Comment mettre fin au conflit israélo-palestinien? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Clôture dimanche du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 20 décembre en RDC. Pas de prorogation, dit la Commission électorale nationale indépendante CENI. En attendant la publication de la liste provisoire des candidats retenus, 28 personnalités ont annoncé leur candidature. À Kinshasa, les opinions sur les candidats sont divergentes. Les détails avec Biobe Malenga.
Certaines candidatures ne sont pas une surprise, comme celle du président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat de 5 ans, ou encore celle de Martin Fayulu, candidat malheureux du dernier scrutin. Dans la ville de Kinshasa, les populations ont des opinions différentes sur les candidats à la présidentielle.
Moi, c'est Omega Dimasikura. 24 candidatures, c'est beaucoup plus par rapport aux élections précédentes. J'ai aussi remarqué la présence des jeunes parmi eux et celle des organisations de sociétés civiles comme M. Dr. Mukwege et Floribert Ndimbembe. Et au moins, ils connaissent les problèmes des citoyens ordinaires. Et cela prouve que les peuples veulent des réformes.
Je suis M. Onassis Mutombo Mulopwe. J'ai vu des candidats, on dirait à mon humble avis, que ce poste du président de la République est en train de se démystifier. Il y a même des candidats pour rire. J'accepte parce que c'est léger démocratique.
Cependant, les analystes politiques affirment que la pléthore des candidats se réclamant de l'opposition pourrait être un facteur déterminant dans les six scrutins de décembre. Pour l'analyste Félix Walassa, l'opposition devra s'organiser si elle veut avoir une chance de réaliser l'alternance.
Si vous regardez Moïse Katumbi, c'est un poids lourd. Docteur Mukwege, un poids lourd. Même Matata Ponyo, aussi un poids lourd. Quelqu'un qui a une crédibilité, qui a déjà travaillé comme premier ministre. Mais ils sont nombreux. À ce moment-là, ils vont amoindrir leurs chances de gagner et de gagner le pouvoir en place. Voyez, donc, ils devraient se concerter tous pour donner une cartouche qui doit faire face à Félix Tshisekedi, parce que sinon, il faut risquer de pleurnicher, soit pendant les élections, soit après les élections.
La RDC organise des élections générales le 20 décembre prochain pour se choisir un président ainsi que des parlementaires provinciaux et nationaux. Le défi des prochains quinquennats restera la restauration de la sécurité, surtout dans l'Est, et l'amélioration des conditions de vie de la population dans ces pays où 70% des habitants vivent en dessous du seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale. Biobe Malinga pour VOA Afrique, Kinshasa.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au moins 30 personnes sont mortes hier à Yaoundé, la capitale du Cameroun, à la suite de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. On signale aussi de nombreux disparus au quartier Mbankolo, au nord de Yaoundé, à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement dans un lac. Au lendemain du drame, les recherches se poursuivaient dans les décombres. Notre correspondant s'est rendu sur les lieux, Emmanuel Juntap. Les détails.
Une fête d'anniversaire qui s'est achevée dans la douleur. Les bouteilles vides par-ci et d'autres à moitié consommées par-là. Dans les décombres, un gadget de joyeux anniversaire. Le tout dernier, juste avant l'éboulement. Rosalie Ngono, résident du quartier Mbankolo Chiféri.
Je n'ai pas les nouvelles. On ne les retrouve même pas. On ne sait même pas s'ils sont en vie.
Combien étaient-ils? Personne ne le sait avec exactitude. Sur le site du sinistre, une femme alerte sur le sort d'une jeune fille portée disparue depuis hier. Charlotte Nouatala, une sinistrée.
Ma maison a été emportée par l'eau. Et dans ma maison, il y a une petite, les enfants de 18 à 20 ans, qui est venue rendre visite à mon fils. Elle était enceinte. On ne retrouve pas son corps jusqu'à l'heure. Mon fils a été sauvé.
Philemon a tout perdu dans le sinistre. La maison dans laquelle il réside avec ses parents depuis 11 ans a été détruite par les eaux.
Partout, il y avait des maisons, là, et la pluie est tombée. On a un lac à 30 mètres de nous, là, et il y a eu une barrière qu'on avait faite sur le lac. Et les pluies d'hier ont détruit le lac, ce qui fait que l'eau a inondé tout le quartier.
Ces derniers jours, des fortes pluies sont tombées sur plusieurs villes du Cameroun. Barthélémy Ahanda, de l'Observatoire national sur le changement climatique, ONAC.
L'ONAC avait prédit des risques de glissement de terrain dans la ville de Yaoundé. Des mesures potentielles avaient été annoncées dans ce cadre-là, que les décideurs politiques devaient prendre, les populations et bien d'autres. Mais bon, dommage, ça n'a pas été fait et nous assistons à ce drame aujourd'hui.
Sapeurs-pompiers, secouristes de la Croix-Rouge et les habitants du quartier s'activent à la recherche des survivants et des morts dans les décombres. Le bilan s'est encore alourdi avec la découverte des corps de deux enfants. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
On va organiser la distribution et maintenant je sais tout ce que le chef de l'État envoie en attendant pour poursuivre les recherches.
C'est un mur de soutènement qui a cédé à la pression des eaux qui ont trouvé des constructions anarchiques dans les bas-fonds. Joseph Marie Assona, représentant du chef de bloc du Mbankolo Chiféri.
Quand le mur a lâché, ma chance a trouvé que certaines populations, les riverains, ont occupé une servitude naturelle. Les gens ont évolué en construction dans cette servitude-là. Quand le lac a lâché, les gens ayant occupé la servitude, il y a eu donc les morts.
En 2019, un éboulement de terrain avait fait 46 morts à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les fortes pluies avaient englouti plusieurs habitations anarchiques au lieu dit Ngouaché. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Mandakiza à son micro. À la mise en onde, Lionel Lunanila Gahima. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute de nos programmes. À la prochaine.